fait, les liens ne sont pas forcément évidents, mais je pense qu'il va y avoir quelques éléments qui vont pouvoir aussi se relier. C'était vraiment très intéressant pour moi, qui donc suis architecte et donc en deuxième année de thèse. Donc ma présentation, elle va s'intituler « Les acteurs des évolutions dans les ensembles de logements, nouvelles dynamiques, coopération et conflits ». Et je l'ai articulée en quatre grandes parties. Une petite présentation du contexte de la recherche et de ce que peut être une recherche en architecture autour de cette discipline qui n'est pas forcément toujours convoquée dans la recherche. Puis du sujet d'étude que je vais présenter aujourd'hui, qui est un ensemble de logements donc, du XXe siècle, suivi des enjeux de cet exemple, et enfin d'une hypothèse de réponse et d'une méthodologie d'approche que je développe dans le cadre de ma thèse. Donc rapidement, pour commencer, le contexte de la recherche. Donc, en effet, je suis architecte de formation et je réalise une thèse qui est financée par le ministère de la Culture, donc sur 3 ans. Donc là, je suis en fin de deuxième année, début de troisième année. Et cette thèse, elle est encadrée par 2 architectes, donc une personne à l'école d'architecture de Toulouse et une autre à l'UC Louvain. Et cette thèse, elle est, dans mon cas, dite recherche-action, c'est-à-dire qui allie à la fois les dimensions théoriques de la recherche en architecture, mais aussi des dimensions pratiques et donc sur le terrain, pour penser l'évolution des lieux dans une dynamique du futur et de comment pouvoir anticiper certaines problématiques. Et mon sujet de thèse s'intitule « La prise en compte de la valeur d'usage dans la patrimonialisation et la réhabilitation des grands ensembles ». Donc tout ça pour penser cette évolution d'ensemble de logements qui sont pour la plupart des cas très stigmatisés et de réfléchir à une manière de les faire évoluer en accord avec quelles valeurs, quel patrimoine au sens très large du terme et sur des questions d'adaptation aux normes ou aux besoins. Donc ce sujet de thèse s'inscrit évidemment aujourd'hui dans les enjeux environnementaux, ce qui n'était pas forcément le cas aussi au début de la réflexion de la thèse, mais évidemment au fur et à mesure cette question elle devient prégnante. Et c'est dans cette dimension-là que s'inscrit ma présentation aujourd'hui. Donc on se propose de regarder cette question du point de vue de l'architecture, mais évidemment en convoquant des outils et des notions de toutes les autres disciplines, des sciences humaines et sociales, notamment l'urbanisme, la sociologie ou l'anthropologie. Et dans une complémentarité, évidemment, entre recherche et pratique sur le terrain, puisque c'est dans ce cadre-là que je m'inscris. Donc ce sujet de recherche et la question générale de l'évolution des logements, ils sont au cœur des enjeux actuels, notamment depuis les années 1970, autour des questions d'énergie et de confort. Donc ça a commencé dès les années 1974 avec des réglementations thermiques, et ça se poursuit évidemment aujourd'hui avec les réglementations énergétiques, qui sont plutôt pensées du côté des normes, donc comme ça a pu être dit dans la présentation précédente, avec des chartes qui commencent et qui finissent par avoir des normes qu'on doit appliquer et respecter pour pouvoir construire ou réhabiliter. Mais également aujourd'hui, de manière plus générale et dans l'actualité plus générale, on se retrouve confronté à des évolutions, notamment avec la pandémie de Covid-19 qui change complètement la manière de penser le confort, l'habitabilité, l'énergétique. Tout le monde est amené à repenser un peu son rapport à son propre logement. Et évidemment, du point de vue de l'architecture ou de l'urbanisme, ça pose de nouvelles questions qu'on ne se posait pas forcément il y a quelques années. Également, si on regarde du point de vue de l'énergétique, ce qui se passe en ce moment avec l'explosion du prix de l'énergie, ça amorce aussi une nouvelle phase de réflexion qui était déjà en cours, mais qui forcément est en train de s'accentuer. Donc on peut s'interroger, et c'est ce dont sur nous, ce qu'on s'interroge, sur ce que ça signifie habiter en 2022, mais surtout encore plus en 2030, voire en 2050. Donc pour cette communication, nous nous intéressons à la typologie des ensembles de logements collectifs, et plus particulièrement sont ceux qui ont été construits donc dans la période 1950-1970, qui est une période de 20 ans, qui correspond à une typologie d'habitat qui est assez particulière, puisqu'elle a été construite après la Seconde Guerre mondiale, donc dans un contexte où il fallait reconstruire la France assez rapidement, et surtout pouvoir loger un maximum de personnes dans des nouvelles conditions d'hygiène. Donc à l'époque de cette construction-là, on a une assez grande évolution de confort dans la construction de logements sociaux notamment, avec l'apparition des salles de bain directement dans les logements, des cuisines équipées beaucoup plus grandes, des surfaces habitables aussi qui étaient plus grandes qu'à une époque, et aussi la généralisation des espaces extérieurs, dont on va avoir un exemple juste après, avec aussi la présence d'équipements culturels, sportifs, qui étaient intégrés directement au contexte de l'habitat. Mais une 60aine d'années plus tard, ces ensembles ils sont enclins à de nombreuses évolutions et de nombreuses modifications. Également, ils sont aussi dans un contexte sociétal qui est assez critiqué, et donc ça, c'est très intéressant de pouvoir les regarder aujourd'hui avec toutes leurs qualités et leurs problématiques. Donc tout d'abord, à l'échelle du contexte urbain, ce sont des résidences qui, en général, étaient construites en grande périphérie des centres-villes et qui, aujourd'hui, notamment avec l'étalement urbain, sont complètement insérées dans des quartiers qui sont de plus en plus denses et donc soumis aussi à la pression du foncier. On a également ce qui concerne le contexte bâti, donc avec des bâtiments qui ont vécu, ont été utilisés et sont toujours utilisés, ont subi les intempéries, le passage du temps, le vieillissement des matériaux, et qui font alors face à des besoins de réparation, surtout dans des contextes où ils n'étaient pas forcément construits pour durer sur le très long terme. On a aussi cette question qui était évoquée tout à l'heure, du temps long des bâtiments et de la temporalité à laquelle on les pense et de la manière dont ils évoluent. On est également confronté, comme je le disais, à la question des normes qui sont liées à l'habitat. Donc aujourd'hui, comment aménager les logements en fonction des nouveaux besoins, des nouvelles normes, mais également des nouvelles manières de vivre, des nouvelles manières d'habiter, du confort, etc. Et de faire évoluer ces logements avec des gens qui vivaient dans les années 60 et d'autres personnes ou les mêmes qui y vivent aujourd'hui. Et on trouve également de nouvelles façons de penser l'évolution des villes dans des dynamiques qui, pendant longtemps, ont préconisé de démolir ces résidences et ces grands ensembles, entre guillemets, pour reconstruire de nouveaux bâtiments à la place, notamment pour densifier ou pour remettre aux normes. Et ces prérogatives, évidemment, aujourd'hui, elles posent différentes problématiques d'un point de vue politique et économique tout de même, puisque démolir pour reconstruire aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher que de réhabiliter ou mettre aux normes dans certains cas. Surtout du point de vue social, et c'est la question que l'on soulève dans la thèse aussi aujourd'hui, car démolir, ça signifie reloger des habitants qui n'ont pas forcément demandé à déménager et qui sont pour certains très attachés à leur lieu de vie, leur quartier, leur bâtiment, leur voisinage, et également, évidemment, d'un point de vue écologique. Donc pour cette communication, et également dans le cadre de ma thèse, je m'appuie sur l'ensemble de logements ensoleillés qui se situe donc à Toulouse, au nord-ouest de la ville et accolé à la ville de Blagnac, où se situe l'aéroport de Toulouse, et donc on est très, très proche du centre-ville. C'est un ensemble de logements qui a été construit donc dans les années 60 et qui comporte 23 bâtiments, 23 immeubles et 850 appartements sur 17 hectares de verdure. Donc vraiment, on est sur un espace qui est très grand et qui est très loin des densités qu'on construit aujourd'hui. On a aussi un parc boisé au centre et on est situé à la confluence de la rivière du Touche et de la Garonne, donc vraiment un environnement qui est de très grande qualité. Et ce contexte, donc, il est très privilégié et c'est un lieu qui est toujours très plébiscité aujourd'hui. Donc c'est une résidence qui a été aussi réalisée avec soin, un travail architectural qui est assez singulier, notamment pour l'époque, avec une construction bâtie très intéressante, une esthétique particulière et des appartements aux usages de qualité, comme je le disais, avec des grands apports de lumière, des vues paysagères, des grandes surfaces. Si on s'intéresse du coup aux acteurs, qui sont une des questions qu'on se pose aujourd'hui, donc la résidence, elle se compose d'une multiplicité de ces acteurs, tant dans la gestion, la gouvernance et la prise de décision, qui sont des enjeux que je vais cibler aujourd'hui. Donc au départ, cette résidence, elle était composée à 100% de logements locatifs sociaux et habitée dans les années 60 par des classes moyennes composées en grande majorité de jeunes ménages qui travaillaient dans des milieux similaires, surtout aéronautiques et hospitaliers du point de vue de sa localisation à Toulouse, et aux tranches d'âge qui étaient proches. Aujourd'hui, ça a complètement évolué et on a trois grands statuts de propriété, donc avec 65% de propriétaires qui occupent leur logement, avec là des propriétaires qui sont arrivés dans les années 60, donc qui ont plus de 70 ans aujourd'hui, et des jeunes propriétaires, des premiers achats, des gens qui ne vont pas forcément être amenés à rester dans ces résidences, ou alors qui s'y investissent pour y rester, mais avec des enjeux qui ne sont pas les mêmes. On a 25% de propriétaires bailleurs, donc qui louent les logements qu'ils achètent, avec de plus en plus d'investissements immobiliers, et qui là louent à différents profils, dont une nouvelle typologie, qui sont les colocations étudiantes dans cette résidence. Et enfin, 10% de logements locatifs HLM, avec depuis quelques temps le bailleur social qui vend au fur et à mesure ses appartements dans la résidence. Donc à terme, d'ici quelques temps, sûrement une année ou deux, il n'y aura plus de logements sociaux dans cette résidence. Ce qui change complètement aussi les rapports entre personnes. Ce sera vraiment une résidence 100% à l'achat. Donc on trouve différentes typologies de résidents, donc bien plus éclectiques qu'au départ, avec des rapports entre occupants, locataires, propriétaires différents, qui n'ont ni les mêmes dynamiques, ni même volonté d'investissement, manière de penser ou de vivre. Et à cette multiplicité de propriétaires, on ajoute la multiplicité de propriétaires et de gestionnaires des espaces communs. Donc on a le bailleur social qui est propriétaire et gestionnaire, par exemple, de locaux communs, de commerces, d'associations, et des espaces extérieurs, et la mairie de Toulouse. Donc on rajoute aussi l'enjeu politique, qui est évidemment très important dans ces relations, qui est gestionnaire des voiries, des stationnements, des réseaux, et également de certains locaux communs. Donc la prise de décision, elle est très complexe. J'ai pris là deux exemples assez concrets. Donc à l'échelle de chaque immeuble, le conseil syndical et le syndic vont voter des décisions qui peuvent être ensuite revotées par les copropriétaires à l'échelle d'un même immeuble. Donc on a vraiment, autour de ces 23 immeubles, une décision qui est très verticale à l'échelle de chaque immeuble, pas du tout une question d'ensemble. Et pour les espaces communs, les décisions elles sont la plupart du temps prises en interne ou alors parfois soumises au vote des copropriétaires qui doivent voter les choses à l'unanimité. Donc là aussi, on a quelque chose de très centralisé. Cette multiplicité des acteurs, donc tant du point de vue de la gouvernance, de la gestion, de la propriété ou de l'usage, ça crée un cloisonnement des décisions et ça limite tant les propositions que les prises de décision. Donc on va voir ces dynamiques et ces coopérations au travers d'enjeux de la résidence en suivi assez représentatifs de quelques ensembles de logements de cette période. Donc le premier enjeu, donc c'est comme je le disais, l'évolution du contexte urbain. Ancy, comme beaucoup d'autres résidences, a été construite en marge du centre-ville et aujourd'hui elle se retrouve complètement inscrite dans un tissu qui est très dense, un quartier qui se construit de plus en plus, notamment par la proximité de l'aéroport. Et cette résidence, tout comme le quartier et la ville de Toulouse, sont confrontées à des problématiques liées à cette sururbanisation. On peut citer des routes qui sont très colmatées, la pollution sonore, le stationnement sauvage. Et Ancy, elle est également confrontée à la pression foncière, notamment du point de vue de l'ensemble de ces espaces vides, qui sont des qualités d'usage, mais qui foncièrement deviennent aussi des tensions entre des résidents, des décisionnaires et de potentiels investisseurs qui, là, voient une opportunité de construire beaucoup plus sur ces 17 hectares. Ça crée également des tensions du point de vue des habitants qui, là on peut avoir un exemple assez concret d'usage qui pourrait bénéficier à tous avec l'agrandissement de l'école qui se situe au cœur de cette résidence, qui est aujourd'hui saturée puisque c'était un équipement au départ lié à la résidence qui est maintenant un équipement de quartier, mais dont l'extension est complètement refusée par une majorité de copropriétaires qui bloquent le projet par peur que cette première initiative densifie l'ensemble de la résidence. Un second enjeu, qui est l'évolution sociale et donc les différentes trajectoires résidentielles que j'évoquais, qui, par l'interaction de cette nouvelle pluralité de profils, complexifie ces prises de décision et les discussions. Les motivations et les implications, notamment budgétaires, elles ne sont pas les mêmes, évidemment en fonction du statut de propriété, des objectifs de la résidence, de l'âge des personnes ou des motivations personnelles. Donc on retrouve des conflits d'usage, avec, si on résume dans les grandes lignes, des propriétaires plus âgés, qui pour la plupart sont dans une démarche plutôt de conservation de la résidence d'origine qu'ils ont connue dans les années 60, et qui sont peu enclins, ou moins enclins en tout cas, à investir dans des changements d'usage qui ne les concernent pas, notamment l'école que je citais précédemment, et des propriétaires qui sont plus jeunes, qui pour certains sont très investis dans la résidence, qui souhaitent la faire évoluer en fonction de leurs besoins actuels, notamment sur des questions de supprimer la place de la voiture et du stationnement de masse de la résidence, de potentiellement la résidentialiser et la fermer pour éviter les stationnements extérieurs, et la création de liaisons piétonnes avec le centre-ville, qui sont des décisions qui sont sur la table depuis quelques temps, mais qui pourtant n'avancent pas. On retrouve évidemment aussi la question des politiques urbaines, donc avec, comme on a pu aussi l'évoquer, la question de l'énergie et des économies d'énergie, avec cette question des normes et de la manière de faire évoluer ces logements en accord avec ces normes et ces nouvelles obligations. Donc si on résume, globalement, dans ces immeubles-là qui existent, on s'intéresse aux déperditions énergétiques sur les façades, les toitures et les sols, qui sont les trois faces les plus importantes à travailler, même s'il y en a énormément d'autres. Mais en tout cas, dans la résidence, c'est ce qui s'est passé comme réflexion. Et en ce lit, la solution qui a été choisie, ça a été une isolation thermique par l'extérieur, c'est-à-dire apposer en façade une nouvelle structure, une épaisseur d'isolation, une nouvelle esthétique, qui est une solution qui est très communément adoptée, notamment dans des sites qui sont habités, comme c'est le cas ici, ou dans de nombreuses autres résidences. Mais cette simplicité de mise en œuvre, elle se confronte à différents autres points. Un coût très onéreux, donc de cette création d'isolation, avec en ce lit une moyenne de 30 000 euros par appartement, ce qui est assez énorme comme investissement sur le très long terme, qui fait donc fuir les propriétaires les plus âgés ou les plus modestes. Une réduction des coûts d'énergie qui, dans le cas de cette résidence, est très relative, puisque les façades sont composées à 70% de vitrage. Donc on peut s'interroger sur le fait d'investir autant sur des façades pleines qui sont bien moindres que les vitrages et sur d'autres solutions qui auraient pu être convoquées. sur la non prise en compte de problématiques générales de déperdition, donc pas de travail en toiture ni en sol, notamment dû au coût très élevé de ces investissements-là, et pas de réflexion sur les énergies renouvelables, comme cela aurait pu être le cas, par exemple, avec un travail de panneaux photovoltaïques en toiture qui aurait été relativement possible, et un rapport coût-temps-résultat qui n'est pas du tout aussi satisfaisant qu'attendu, et surtout pas aussi satisfaisant que ce qui avait été évoqué pour convaincre les habitants de voter ces travaux. Donc on retrouve une solution qui est très générique, dans une résidence qui est plutôt singulière, et qui fait alors perdre en qualité et en identité. Et le dernier enjeu sur lequel je vais passer rapidement, mais qui est la problématique du statut des propriétés dans les espaces communs. Donc on a des espaces qui sont disponibles et utilisés par tous, mais qui appartiennent cependant à des gestionnaires et entretenus par des salariés de ces gestionnaires, et qui donc là font aussi apparaître des conflits d'usage entre des résidents qui souhaitent s'approprier les lieux et l'entretien qui est réalisé, des gestionnaires qui ne sont pas forcément enclins à ces appropriations. Donc on se retrouve donc aujourd'hui à un carrefour entre des tensions entre acteurs, des prises de décision complexes et contradictoires qui font alors perdre en qualité à une résidence pourtant de qualité qui fonctionnait très bien il y a quelques temps encore et qui crée alors des tensions internes amenant à de nombreuses ventes d'appartements. Aujourd'hui, depuis quelques mois, on a une vente d'appartements par semaine. Donc sur 856 appartements, le turnover va être assez rapide. On peut alors se demander comment faire évoluer l'ensemble en accord avec tout ce qu'il représente, c'est-à-dire une composition bâtie, une histoire et également une multiplicité d'usagers, d'habitants, d'acteurs, de gestionnaires pour à la fois être en accord avec les besoins, les normes et évidemment les questions environnementales qui pour l'instant n'avaient pas trop été posées dans le cadre de cette résidence. Donc dans le cadre de la recherche, je vais conclure là-dessus, nous faisons l'hypothèse que le seul plan guide de départ, la construction de la cité donc dans les années 60, n'est pas suffisant aujourd'hui pour construire des évolutions pérennes. Nous proposons alors de réfléchir à ce que l'on a pour l'instant appelé un plan guide qui prendrait en compte cette multiplicité des points de vue, des besoins, dans une dynamique de réhabilitation de cet ensemble en lien avec les différents enjeux et points de vue. Pour le faire évoluer dans une dynamique d'ensemble au travers de ses qualités, son identité et en proposant une sorte de démarche de laboratoire, d'expérimentation sur différentes thématiques qui ne sont pour l'instant jamais regardées de front. Donc pour cela, la méthodologie qui est actuellement mise en place, ça a été donc l'entretien habitant pour recueillir la parole et la mémoire de ces habitants qui sont là depuis plus ou moins longtemps, les observations de terrain et d'arpentage de l'espace, des relevés d'usage et d'appropriation de lieux potentiels de projets, de lieux qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins, et de comprendre ces différents enjeux. Et enfin, une réflexion sur la représentation, la communication et également la pédagogie, qui est aussi un enjeu qui est très important à développer, notamment dans le cas de recherche, de construction de plan guide et de co-construction. Et donc pour conclure, l'enjeu aujourd'hui, selon nous, c'est de réussir à faire évoluer ces ensembles de logements qui ont des tensions multiples, en portant notre attention notamment sur les usages, les appropriations et les points de vue, différents besoins et de la multiplicité des acteurs qui sont présents dans ces ensembles et qui sont très nombreux. Pour ce faire, la prise en compte du patrimoine tant matériel qu'immatériel, avec notamment la question de la valeur d'usage, sont des pistes de réponse que l'on essaye de mettre en place pour permettre une coopération qui serait mesurée et durable.
Sur le respect du temps.
Bonjour, Clara Boutet, je suis doctorante en anthropologie à Strasbourg au laboratoire LINX. Je travaille sur les méthodes participatives en santé et en particulier sur les méthodes de co-construction. Et du coup, je voulais savoir quel type de définition vous appliquez de la co-construction, enfin, quel type de concertation, de coopération vous pensez utiliser.
Alors, c'est une grande question qu'on se pose toujours. Pour l'instant, on ne sait pas si on est trop dans une démarche de co-construction. On travaille et on a travaillé avec des entretiens habitants. Alors, à différentes temporalités, puisque en ce lit, qui est le cas d'étude majeure de ma thèse, il se situe dans un temps plus long que les 3 années de thèse, puisqu'il a fait partie d'un exemple du corpus d'études qui a été fait dans une recherche précédente à Toulouse. Donc, on a des entretiens habitants de 2016 à 2022, ce qui permet d'avoir déjà différents types de points de vue en fonction des différentes évolutions de la résidence. On a différents temps aussi d'ateliers, notamment lors des journées nationales de l'architecture ou des rencontres qu'on organise dans différents cadres, où là on peut avoir différentes approches et différents entretiens avec une multiplicité d'habitants. Mais on se confronte quand même, en termes de co-construction, au fait que ce sont toujours les habitants et les usagers et les résidents volontaires qui viennent discuter des problématiques. Et c'est une problématique générale de la co-construction qu'on amène aussi, nous, au stade où on en est. Donc c'est une démarche qui est évolutive. On s'intéresse aussi au fait de recueillir différents points de vue donc, de ces usagers, mais aussi du point de vue institutionnel. Comme je le disais, il y a aussi la politique qui entre vraiment en jeu en ce lit, qui met beaucoup de freins dans les évolutions. On a aussi un tissu associatif qui est dense, donc qui fait aussi remonter différentes problématiques. Et nous, dans la co-construction, on essaye de prendre ces différents points de vue, de les collecter, même si c'est à des temps différents, pour pouvoir ensuite les réinjecter et avoir une question d'un plan guide qu'on pourra ensuite discuter lors d'ateliers lorsqu'il sera mis en place. Mais c'est une question évidemment qu'on pose tout au long de la recherche.
Merci. Autre question ? Oui.
Du coup, Julie Cardi, docteur en urbanisme. J'aimerais savoir si vous allez un peu comparer le contexte réglementaire qui a été utilisé à l'époque de construction, celui de la RT 2012 qui était encore appliquée jusqu'à récemment, et celle de la RE 2020 qui est censée être appliquée depuis, et s'il y a une franche amélioration entre les problématiques de la RT 2012 qui ont causé les problèmes que vous avez décrits et la RE 2020 qui est censée les corriger.
Alors oui, et c'est une question qui est assez importante dans le travail qu'on fait et qui va aussi expliquer pas mal d'enjeux et de problématiques qui ont été faits par rapport aux travaux qui ont été réalisés. Donc oui, c'est des choses qu'on étudie et qu'on met en place. On a en plus différents diagnostics qui ont été réalisés par des bureaux d'études lors de la mise en place des travaux en dehors des recherches, donc qui sont vraiment appliqués au terrain et qui montrent certains enjeux aussi et problématiques qu'on retrouve toujours aujourd'hui. Et on peut aussi étudier ce qui a été fait dans les années 60 et aussi mettre en corrélation le fait que c'était pas de si mauvaise qualité que ça par rapport à ce qui est soulevé dans les diagnostics. Donc oui. Et on va pouvoir aussi analyser ce qui a été fait, ce qui est aussi très intéressant puisqu'on a deux bâtiments qui ont été isolés par l'extérieur et qui du coup sont censés amener des solutions. Mais on va aussi avoir un petit retour d'expérience de ça. Puisqu'aujourd'hui, les habitants sont très mécontents de ce qui a été fait, de la qualité, de l'enjeu rapport qualité-prix et de l'usage qu'ils en font maintenant, puisque ça pose de nombreuses questions en termes d'usage. Et on a aussi la chance d'avoir des immeubles qui ont été isolés par l'intérieur, par des habitants eux-mêmes qui ont fait l'initiative, des initiatives qui ne sont pas du tout prises en compte ni dans les diagnostics officiels, ni dans les ventes d'appartements, etc. Mais qui, en termes de confort d'usage en tout cas, et de consommation énergétique, peuvent nous renseigner à nous sur un diagnostic et des conclusions plus en retrait, plus du point de vue de l'architecture et de l'usage. Donc oui, c'est des choses qu'on met en place. Confrontées aussi à toute la perception et aux différents habitants qui, en plus, on a la chance d'avoir encore une grande majorité d'habitants qui sont là depuis les années 60 et qui peuvent aussi témoigner de l'évolution de la notion de confort et de la notion d'énergétique sur l'ensemble de la vie de la résidence qu'on étudie.
Question.
Je crois qu'il y a une dernière question de Lucie.
Ce que je voulais vous poser comme question, c'est là, c'est sur un grand ensemble, donc la prise en charge des coûts, notamment de rénovation énergétique, c'est les pouvoirs publics, j'imagine. Est-ce que vous avez pu comparer avec des cas de copropriété privée où là, il peut y avoir des conflits entre copropriétaires avec ceux qui ont les moyens et ceux qui ont envie d'investir ou pas sur cette rénovation ?
Et c'est le cas même dans le cas d'un seul lit, en fait, parce que c'est un grand ensemble qui aujourd'hui est majoritairement composé de propriétaires occupants ou de propriétaires bailleurs. Donc on n'a plus trop l'impact du bailleur social. Et comme les votes sont faits à l'immeuble, on a clairement cette tension qui existe entre des copropriétaires qui vont avoir les moyens, des copropriétaires plus âgés qui ne vont pas forcément avoir ni les moyens ni l'envie d'investir là-dedans. Et oui, ça crée complètement des tensions. Et la solution qui a été choisie, qui est aujourd'hui n'est appliquée qu'à deux immeubles des 23, au départ, elle a été pensée pour être appliquée sur les 23. Mais ça bloque complètement aujourd'hui sur justement les votes et les moyens disponibles de chaque propriétaire. Donc clairement, c'est un enjeu qu'on a toujours aujourd'hui. Et même si c'est aidé évidemment par les pouvoirs publics quand même, ça reste des coûts qui sont toujours très onéreux pour chaque propriétaire qui investit.
Et moi, j'aurais peut-être une question qui est dans le prolongement de celle de Lucie. C'est, je ne sais pas si vous avez pu comparer d'autres types d'habitats, mais par rapport aux questions, aux aménités environnementales et aux soucis qu'on leur donne de manière croissante, est-ce que ces grands habitats offrent des aménités inférieures à d'autres types d'habitats ? Est-ce que du coup, ça fait qu'on a un renouvellement des populations ou c'est des populations qui, qui ont moins accès à ce type d'aménité, en fait, qui vont finir par occuper les lieux. Enfin, est-ce que vous regardez sur l'ensemble du parc immobilier cette dynamique sociale ?
Alors oui, et c'est intéressant de le voir sur le quartier où justement ça s'est densifié assez vite et où le quartier change beaucoup. Alors on a aussi la problématique de l'implantation de la résidence, de l'endroit où elle est. Là, le turnover qui se fait aujourd'hui, c'est beaucoup d'investisseurs privés qui louent les logements ensuite. Donc ça va être à étudier aussi sur les 3 ans de thèse pour voir cette évolution, puisqu'il y a une vente d'appartements par semaine. Donc vraiment, on va pouvoir voir qui investit, qu'est-ce que ça crée dans la résidence. Est-ce que les problématiques elles sont pas les mêmes qu'il y a 4 ans ? Est-ce qu'elles vont évoluer et dans quel sens ? Donc c'est quelque chose que, oui, on essaye de prendre en compte et de mesurer à la petite échelle de temps qu'on a de disponible. Mais en tout cas, ces évolutions-là, on peut les voir depuis les années 60. On a quand même pas mal de données qui rentrent en compte.
Merci beaucoup. Simplement, un tout petit mot, si je peux me permettre, parce que votre intervention, pour moi, me suscitait beaucoup de questions. Simplement, ça m'a fait penser à un très très vieux texte. Hein. C'est une remarque d'un vieux blanc mâle. Hein. Donc, je suis comme le moustique, hein, j'ai pas grand chose pour moi là. Mais un très vieux texte de Madeleine Lemaire c'était Chambon-Rudon, je crois, qui avait écrit ça avec Madeleine Lemaire dans les années 70. Ils auraient pu en faire un bouquin d'ailleurs, ça s'intitulait Proximité spatiale et distance sociale. Parce que sur la sociologie des habitants de ce quartier, je trouve qu'il y a certainement... Enfin, l'appartenance socioculturelle est certainement quelque chose qui est une grille de lecture qui peut être intéressante aussi, semble-t-il. Alors, on vous remercie.
Merci.
On vous applaudit aussi. On va...